Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Chemins de la Vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconquête de son identité au-delà de la maladie cœliaque.
C'est un vaste programme, oui, et tellement essentiel.
Tellement, ouais. En fait, pour introduire ça, imaginons juste un instant qu'on marche avec un appareil photo dans les mains, mais le zoom, il est irrémédiablement bloqué sur le mode macro. On scrute le moindre détail, on analyse chaque millimètre, on voit plus que les miettes ou les petits caractères sur les emballages.
C'est une image très parlante, c'est vrai.
Et le paysage majestueux, tu sais, celui qui est vaste et lumineux tout autour, il a tout simplement disparu. Et aujourd'hui, le but, c'est d'apprendre justement à dézoomer pour retrouver une vue d'ensemble. Ouais, exactement. Et pour aborder ce cheminement qui est, je dirais, vraiment intime, on va s'appuyer sur un texte magnifique qui s'intitule « Le jour 8 ». Ce texte a été rédigé par Jida Ayad et je pense qu'il faut vraiment prendre un instant pour préciser qui elle est.
Tout à fait, parce que son parcours donne tout le poids à ses mots, en fait.
Voilà. Elle est docteur en sciences agronomiques, elle est enseignante-chercheuse, nutritionniste et, point fondamental, elle est elle-même cœliaque.
Je trouve que c'est une combinaison assez rare et précieuse.
Complètement. Elle connaît le chemin de l'intérieur, quoi.
Oui, il y a la rigueur de la chercheuse, bien sûr, mais aussi cette empathie très profonde, tu vois, de celle qui a vécu le bouleversement du diagnostic.
Et du coup, comment tu résumerais le message central de son texte pour poser un peu les bases?
Je le formulerais un peu comme ça. La maladie cœliaque nécessite une grande vigilance au quotidien. Une vigilance qui peut hyper facilement envahir tout notre espace mental.
Prendre toute la place.
C'est ça. Mais le message central de l'autrice, c'est vraiment de rappeler que cette maladie, oui, elle fait partie de notre histoire, mais elle ne définit pas du tout notre valeur ni notre identité profonde.
Et donc l'idée, c'est de réussir à s'en détacher un peu?
Voilà, il est vraiment essentiel de se reconnecter à ses passions, à ses rêves, enfin, à tout ce qui fait de nous une personne unique au-delà de ce simple diagnostic médical.
Ça fait du bien à entendre. Mais avant de parler de cette reconquête, j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur ce fameux piège de l'hypervigilance.
Oui, le moment de la bascule.
Ouais, parce que quand on y pense, juste après le diagnostic, on se met à penser uniquement en fonction du gluten. Les courses, ça devient des heures à lire des étiquettes minuscules.
Ah oui, l'angoisse des restaurants, les invitations chez les amis.
Exactement. On anticipe tout, on pose 1000 questions, on est en alerte permanente en fait.
Et c'est là que l'autrice pose un regard d'une grande douceur. Elle valide complètement ça. Elle dit que tout cela, c'est normal.
C'est normal d'être aussi angoissée.
Oui, parce que cette vigilance absolue au début, c'est pas une névrose, c'est une nécessité médicale pour protéger sa propre santé, quoi. Le corps se défend.
C'est vrai, c'est de la survie. Mais du coup, ça soulève une nuance qui me paraît importante.
Laquelle ?
Où est-ce qu'elle se situe exactement, la bascule ?
Tu veux dire entre la précaution et l'obsession ?
Voilà. Comment on fait la différence entre le fait de prendre soin de sa maladie, ce qui, on l'a dit, vital, et le fait de vivre uniquement autour d'elle, ce qui devient vite étouffant?
C'est toute la subtilité de son approche, en fait. Elle explique que la maladie est une réalité médicale. Ça, c'est indéniable, ça fait partie de l'histoire de la personne. Mais le danger, il survient vraiment au moment où cette contrainte logistique devient l'entièreté de l'identité de la personne.
Quand on se résume à ça, quoi.
Exactement. Quand je dis « je suis cœliaque » et que j'oublie de dire tout le reste.
Et donc, comment on fait pour réintégrer ces autres dimensions, ces autres facettes de notre vie qu'on a un peu mis sur pause?
Eh bien, l'autrice s'appuie sur une notion très puissante, c'est le pouvoir du mot « et ».
Ah, juste la conjonction « et ».
Oui, ça paraît tout bête, hein, mais c'est une liste qu'elle propose qui est super inspirante. On peut être cœliaque et grand voyageur, tu vois. Cœliaque et gourmand, ou bien sportif, artiste, parent.
L'un n'empêche pas l'autre, finalement.
C'est ça. L'alimentation change, c'est sûr. Les habitudes doivent être réorganisées. Mais la personne, elle, elle n'a pas disparu le jour du diagnostic.
Ça me fait penser à, je sais pas, une image de rénovation de maison.
Ah oui? Raconte.
Mettons qu'on a dû refaire toute la plomberie. Bon, c'est l'alimentation ici, dans notre exemple.
Oui, des gros travaux bien lourds.
Ouais, ça demande de casser des murs, c'est bruyant, c'est hyper contraignant pendant des mois. Mais au final, quand c'est fini, l'âme de la maison, les rires à l'intérieur, la lumière, tout ça reste exactement pareil, non?
C'est une métaphore parfaite. Les fondations, l'architecture de la personne, son humour, ses rêves, ses imperfections, tout ça reste intact.
C'est rassurant, je trouve.
Très. Et elle met en lumière une vraie subtilité linguistique, je trouve, dans son texte. L'enjeu, c'est pas d'apprendre à vivre uniquement autour du sans gluten.
C'est vivre tout court.
Voilà. C'est simplement apprendre à vivre sans gluten. Mais au-delà de ça, il y a encore d'innombrables choses à découvrir, à construire.
Vivre sans gluten et pas autour du sans gluten. C'est vrai que la nuance est forte. Mais bon, comprendre ça intellectuellement, c'est bien.
Oui, mais dans la pratique, c'est autre chose. Hein.
Grave, ouais. Quand on est pris dans le tourbillon de la charge mentale, c'est chaud. Comment on ancre ça concrètement dans le quotidien?
Et c'est là que le jour 8 de son programme prend tout son sens. Parce qu'elle propose des petits rituels très concrets, tu vois. Un pour le matin, un pour le soir.
C'est vrai. Alors le rituel du matin, si je me souviens bien, l'idée c'est de se reconnecter.
C'est ça. Prendre juste quelques minutes pour soi, avant même de commencer à penser au repas.
Ouais. Et elle pose deux questions, j'y trouve vraiment intéressantes. La première c'est... Qu'est-ce qui rend heureux aujourd'hui, indépendamment de la maladie?
Chercher un projet, un rêve qu'on a peut-être mis de côté, ou même juste la perspective de voir une personne qu'on aime.
Exactement. Et la deuxième question du matin, c'est de quoi peut-on être fier chez soi, en dehors de la capacité à gérer la maladie?
Ah, ça c'est fort.
Oui, parce qu'on peut être très fier de sa rigueur alimentaire, c'est pas le souci. Mais c'est bien de se rappeler qu'on a du courage ailleurs, de la créativité, une belle façon d'aimer ou je sais pas, une grande résilience.
Complètement. C'est changer la fréquence du cerveau dès le réveil, en fait.
C'est ça. Et puis, la journée passe avec tout son lot de stress et vient le soir.
Oui, et le soir, souvent, l'évaluation de la journée pour une personne cœliaque, elle se résume à une seule question super anxiogène.
Est-ce que j'ai réussi à éviter le gluten?
Exactement. Et si la réponse est un peu incertaine, t'imagines l'angoisse avant de dormir?
Ah oui, c'est terrible. Et du coup, le texte, il invite à changer cette métrique, à élargir le regard, avec trois autres questions, c'est bien ça?
Oui, elle propose de se demander « qu'ai-je donné aujourd'hui ?» Ensuite, « qu'ai-je appris sur moi ?»
C'est beau.
Et enfin, qu'est-ce qui a amélioré ma journée? Même si c'est une toute petite chose, tu vois, un rayon de soleil, un bon café.
C'est vraiment ramener de la douceur. Mais tu sais, dans ce rituel du soir, il y a une phrase qui m'a vraiment percuté dans le texte.
Ah, je crois savoir laquelle.
Quand elle dit de remplacer cette question de l'évitement par « est-ce que j'ai vécu quelque chose qui me fait me sentir en vie aujourd'hui ?»
Oui, c'est le cœur du texte, je dirais.
Mais psychologiquement, en quoi ce simple changement de question en fin de journée, ça peut transformer la façon dont on vit la maladie?
C'est une différence immense, vraiment. Ça permet de passer d'une posture de pure survie, où l'objectif c'est juste d'éviter le danger, le gluten, à une posture de vie, tout simplement. C'est se dire que oui, l'alimentation, elle s'adapte à la maladie, mais la vie, la joie, la curiosité, elles reprennent leurs droits.
C'est super puissant en fait. C'est remettre la maladie à sa juste place.
Exactement. Elle prend de la place, c'est vrai, mais elle n'est pas tout.
C'est un message très apaisant. Et je pense qu'il est temps de conclure sur cette belle étape d'acceptation et de regarder un peu vers l'avenir.
Oui, pour résumer très brièvement la conclusion du texte, l'idée c'est de se rappeler qu'on a une maladie, mais qu'on n'est pas une maladie.
La nuance qui change tout, quoi.
Absolument. Et l'autrice offre d'ailleurs une super perspective pour la suite de son programme. Parce que ce jour 8, il prépare le terrain pour le jour 9, qui va servir logiquement à retrouver la confiance pour construire une nouvelle routine.
Waouh, ça donne vraiment un élan, tu vois, une perspective super lumineuse pour la suite.
C'est tout l'objectif, oui.
Eh bien, pour accompagner ça, avant de se quitter, je propose une petite introspection immédiate pour les personnes qui nous écoutent.
Je trouve que c'est une très bonne idée.
Pourquoi pas prendre un stylo, là, tout de suite, ou juste y réfléchir tranquillement et essayer d'identifier trois choses qu'on aime chez soi, en dehors de la maladie. Trois choses qu'on aimerait encore accomplir, ces petits ou grands projets mis de côté.
Oui.
Et enfin, trois choses qui donnent tout simplement envie de se lever le matin. Je trouve que c'est une petite graine d'espoir à cultiver dès la fin de cette écoute.
C'est un très bel exercice à faire avec beaucoup de bienveillance.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.